Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
Bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la Chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Parmi eux, on retrouve Pickaway, la nouvelle application de mobilité intelligente. Son but, offrir une solution aux problèmes de mobilité récurrente que nous rencontrons au quotidien dans les grands centres urbains. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Ailey Abebe. Bonjour Ailey.
Bonjour.
On est ravis de t'accueillir sur Next Step. Si les auditeurs ne connaissent pas tous ton nom, beaucoup doivent connaître tes établissements puisque tu es le fondateur du restaurant Too Cool et de trois autres établissements mêlant culture et nourriture, le Cercle des Voyageurs, le Café Béguin et le Loft 58 qui est la cafétéria de l'IEX.
Exactement.
À l'origine, tu es ingénieur de formation et tu t'es reconverti dans l'horeca pour accomplir un vieux rêve, à savoir apporter à Bruxelles l'exotisme de la cuisine de ton pays d'origine, l'Éthiopie. Alors ma question est simple, à quel moment un ingénieur décide de faire le pas et de lancer son premier resto?
Ça se passe au moment où on ne fait plus que du project management, en ce qui me concerne en tout cas. Donc on ne les jetait plus du tout dans la technique. Et finalement, il y avait un rêve de se mettre à son compte. Et je crois que ça, c'est important de comprendre que quand on a longtemps travaillé pour quelqu'un, à un moment donné, on se dit, mais tiens, tant qu'à faire ce qu'on fait là, on pourrait le faire pour soi-même. Ça, c'est la première des démarches que j'avais eues. La seconde, c'est effectivement, moi j'ai vécu à Bruxelles, donc je sais qu'avec le temps, j'ai compris que les gens ne connaissaient pas bien l'Éthiopie, ne savaient pas ce que c'est. J'ai aussi souffert un peu de ça, finalement, parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé dans les années 80. J'imagine que, enfin peut-être pas vous mademoiselle, mais Tariq, en doute, il sait ce qui s'est passé. Il y a eu de la famine, etc. Il y a eu des chansons qui ont été faites, donc il y a eu des choses extraordinairement bien. Mais c'est vrai que quand on est éthiopien à Bruxelles, c'était un peu...
Il y a quand même tout un passé, un historique derrière.
Exactement, il y a un passé. Donc du coup, je me suis toujours dit... Voilà, pourquoi pas faire connaître un peu cette culture qui est fantastique, ce pays, avec une grosse histoire aussi, enfin une histoire assez longue et rattachée à beaucoup d'autres civilisations d'ailleurs, et très méconnue. Donc il y avait ce mélange de faire quelque chose pour moi et de faire en sorte que les gens puissent rencontrer ma culture aussi.
Et pourquoi la nourriture comme porte d'entrée de cette culture?
Je pense que ça aurait pu être autre chose, mais comme j'ai toujours cuisiné, j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours suivi ma mère qui m'a beaucoup appris quand on était jeune. Je crois aussi que la cuisine apporte énormément en fait, de proximité et de facilité pour rencontrer une culture. Tout le monde mange, tout le monde aime découvrir aussi. Et donc c'était vraiment le cas, c'était découvrir, en tout cas pour ce qui concerne la cuisine éthiopienne. Donc au final, c'était aussi une réflexion, mais en même temps, c'était presque quelque chose qui allait de soi en fait. Il n'y avait pas vraiment de réflexion. C'était la cuisine et il fallait faire un restaurant éthiopien parce qu'il n'existait pas non plus. Donc il y avait... créer quelque chose d'innovant, faire découvrir la culture et se lancer en son compte aussi.
C'était et à cette époque-là, est-ce que tu savais s'il y avait vraiment un public pour ça ou tu t'es lancé en disant on verra mais bien le jour de l'ouverture?
Voilà, donc on ne fait jamais rien sans savoir. C'est important qu'on doit quand même avoir un minimum d'expérience, en tout cas dans l'organisation des choses. Donc moi j'avais à l'époque avec justement ma famille, les Éthiopiens de l'époque, ma mère et tout ça, on avait créé une association qui s'appelait Belgo Ethiopian Association, qui existe encore d'ailleurs, où on faisait des événements. Et où on testait un peu si ça pouvait fonctionner, si le Belge ou l'Européen aimait bien la cuisine éthiopienne. Et bon, ça marchait très très bien, évidemment. Pour tous ceux qui connaissent, ils rêvaient d'avoir un restaurant éthiopien. Donc on avait quand même un petit peu d'expérience, quoi.
Et c'est quoi la première chose que tu as faite?
C'était le Kokob. C'est un restaurant éthiopien aussi, qui se trouve aussi au centre-ville. Et là, j'avais fait ça avec d'autres amis, on était plusieurs. Et donc c'était directement un restaurant éthiopien. Donc tout à fait la même chose que le Too Cool.
Très bien. Et donc après le Too Cool?
Après, j'ai fait le Cercle des Voyageurs, parce qu'en fait, c'était juste à côté du premier restaurant. Donc j'ai fait le Cercle des Voyageurs, parce que là, il y avait aussi quelque chose qui m'intéressait énormément. C'était le fait qu'à la base, c'est une librairie, une bibliothèque. C'est un centre culturel, en fait. Donc il y avait la possibilité d'amener de la culture, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas simplement faire en fait de la restauration ou du business si on veut faire passer un message. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre à côté qui ouvre les portes, et je pense que la seule chose qui nous reste finalement pour que les gens s'acceptent entre guillemets les uns les autres, c'est de présenter les cultures diverses par différents médias, que ce soit la télévision, que ce soit la présentation de livres, que ce soit la projection de films, que ce soit l'exposition, des concerts. Il y a énormément de choses qu'on fait au Cercle des Voyageurs. Donc on a créé le Cercle, enfin on a repris le Cercle des Voyageurs, on a créé la Brasserie du Monde.
Tu dis on parce que vous étiez plusieurs.
À la base, j'étais seul, mais j'avais pris un associé à l'époque qui s'appelait Lionel Cataldo, qui n'est plus avec moi aujourd'hui, mais qui s'occupait de plus de la partie finalement.
Donc ça c'est important, tu n'as pas entrepris seul, tu étais...
En fait, c'est quasi, en fonction de la taille et de l'envergure des projets, entreprendre seul c'est un idéal qui est difficilement atteignable. Il faut comprendre que, surtout dans ce secteur d'activité là, avoir toutes les compétences en une seule personne, mais aussi le temps et l'énergie pour faire les choses, parce qu'on est finalement assez seul quand on entreprend. On a beau avoir des guichets d'entreprise et en avoir plein de choses.
Il y a une vraie solitude.
Au final, il y a une vraie solitude d'entrepreneur. Ça, c'est très important. Il faut savoir qu'on doit prendre des décisions vite, parfois sans connaître les tenants et les aboutissants. Donc, on prend des décisions un peu au pif. Hein, avec, il faut un peu avoir de chance, ça, c'est clair et net. Donc tout seul, c'est un peu difficile, j'avoue. Franchement, on peut essayer de faire des choses à taille humaine, mais encore une fois, je prends l'exemple, j'ai des amis qui ouvrent une amie qui a ouvert une herboristerie, d'autres amis qui a ouvert un petit bar, même ils sont 24 H dans leur établissement. Donc c'est compliqué ça aussi, parce que du coup on n'a plus de vie à côté. Donc il faut savoir lier la taille critique pour pouvoir quand même tous, en étant associés, gagner quelque chose, mais il faut aussi que quelque part chacun puisse avoir une vie privée à côté. Donc c'est tout l'aspect qu'on ne connaît pas au départ quand on démarre, parce qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme clientèle, si ça va fonctionner ou pas. En fait, c'est une adaptation permanente. C'est-à-dire qu'il faut garder à l'esprit que c'est pas parce qu'on lance, il faut tout le temps se remettre en question en permanence. Et si on arrive à faire ça et qu'on arrive à avoir les bons réflexes de changement, d'adaptation, d'amélioration de son propre business, ben ça ne peut que...
Visiblement, que tu les as, parce que tu as quand même chopé le virus, tu n'as pas que un établissement, tu en as plusieurs.
Il y en a plusieurs, oui.
Et à chaque fois, avec un concept plutôt abouti, une vraie déco, enfin je veux dire, c'est complètement pensé.
Oui.
Comment est-ce que tu crées ces ambiances dans tes restaurants?
Alors d'abord, donc seul on fait rien, comme je disais, donc je suis quand même entouré de gens qui sont super. Donc il y a mon bureau de gestion qui s'appelle Gestiamo, avec mes collaborateurs directs, qui s'occupent eux de la partie que personne ne voit, mais qui est essentielle, c'est-à-dire administratif, le personnel, et tout ce qui est en fait procédure et fonctionnement, comptabilité aussi. Et à côté de ça, je travaille avec différentes personnes, que ce soit des décorateurs, des amis comme Tarek, etc. Machin, à qui on fait des brainstorming, on essaie de réfléchir à une solution. Et puis surtout, mon leitmotiv, c'est de dire, voilà, il faut que les gens viennent et finalement soient complètement dépaysés et qu'ils arrivent dans une atmosphère qu'ils ne connaissent pas. Donc il faut être innovant et il faut essayer des choses qui apportent quelque chose, qui amènent une plus-value en fait à une ville. Ça, c'est mon idée. Après, pour y arriver, évidemment, il n'y a pas de secret. Je ne peux pas vous donner une recette précise, mais il faut que tous les ingrédients s'y trouvent en tout cas. Il faut que ce soit une bonne localisation, il faut qu'il y ait une bonne équipe, il faut que les gens soient souriants, il faut que la nourriture soit bonne, il faut que le service soit impeccable, il faut que au niveau de la déco, tout soit finalement bien pensé et harmonieux. C'est un tout. On ne peut pas laisser quelque chose pour autre chose. En fait, ce n'est pas possible.
Et depuis combien de temps tu es là-dedans? C'est-à-dire que là, il y a quand même beaucoup d'établissements. J'aurais juste besoin d'une info de temporalité. C'est-à-dire,
alors, moi, j'ai commencé en 2006 avec le premier établissement. Donc 2006, ça fait combien alors?
Ça fait 12 ans. Bientôt, oui, ça va faire bientôt 13 ans que tu as...
Ouais, voilà.
Et comment est-ce qu'on fait pour maintenir la croissance? Comment est-ce qu'on fait pour être un peu sur tous ces lieux, suivre de près ou de loin? Alors, je sais que tu es bien entouré, mais
en fait,
c'est toi le grand Manitou ou pas?
Oui, c'est toujours moi, mais je travaille avec des managers. Donc, c'est-à-dire que moi, mon vrai travail d'aujourd'hui, c'est de faire du coaching. C'est d'être là pour résoudre des problèmes, même si c'est pas moi qui les résous directement. En tout cas, ils m'en parlent, on se voit régulièrement, on essaie de trouver des solutions. C'est les aider à trouver du personnel compétent et adéquat, parce que tout le monde n'a pas l'expérience non plus d'engagement. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est qu'on engage, bien souvent, on engage des gens finalement parce qu'on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui nous aide à travailler. Et puis, on se satisfait assez rapidement de l'incompétence, ou en tout cas, on aménage des choses pour quand même garder la personne, parce qu'on a toujours besoin. Et qu'on, nous, on n'a pas le temps de faire du recrutement parce qu'on a un million de choses à faire à côté. Donc, on rentre dans un cercle qui est compliqué. Donc, moi, je viens en disant, OK, cette personne, je vois qu'elle correspond à ce qu'on lui demande de faire ou pas. Elle a les compétences ou pas, ou il faut améliorer ça, ou il faut faire des formations. Donc, j'essaie de donner ça comme cadre pour les managers. Et souvent, ça suffit. Hein. Donc, il y a aussi toute la partie technique. Donc, en fait, si on arrive à... En tout cas, ce que j'ai compris, c'est si on arrive à enlever tout ce qui est, je dirais, abrutissant, pas vraiment abrutissant, mais travaux ingrats, tâches ingrates pour les managers, c'est-à-dire s'occuper des personnels, s'occuper des recrutements, ils peuvent se concentrer sur leur boulot. C'est-à-dire avoir 100% de valeur ajoutée sur ce qu'on leur demande de plus. Donc, c'est-à-dire de faire un bon service, d'être souriant, de faire attention aux détails, de former le personnel, etc. Voilà.
Et je me demandais aussi, est-ce que finalement, après, on ne peut pas se dire que, même si la nourriture est bonne et qu'elle est importante, est-ce qu'elle ne devient pas, dans ton projet qui est un peu plus large, un peu un prétexte ? Je veux dire, est-ce que tes projets ne dépassent pas juste la nourriture ? Et est-ce qu'on boit finalement, parce que tu organises des concerts, je sais qu'au Béguin, il y a plusieurs choses qui se passent un peu partout d'ailleurs. Voilà. Quel est le projet global
Le projet global, ça a été pendant longtemps de démontrer, et c'est toujours, de démontrer qu'en fait la culture peut nourrir le commercial et le commercial la culture. En fait, c'était ça un peu le projet qui s'est, encore une fois, développé progressivement. C'est pas quelque chose qui a été, je dirais, créé de toute pièce au début, donc il a fallu commencer par le stade voyageur et puis dire bah tiens oui finalement ça marche en fait quand on fait des bonnes choses, en fait il y a des gens qui viennent, en même temps ils consomment, ils voient l'endroit, etc. Donc en fait on a, mais il y a, c'est toujours l'histoire de l'œuf et la poule, donc il faut à un moment donné se dire bon on commence là, c'est un pari, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, ça c'est à voir, il y a des choses qu'on peut adapté facilement et puis d'autres pas du tout. On comprend que si on fait une exposition, bah, ça amène du monde, mais pas trop. Ça dépend qui expose. Quand on fait une présentation de livre, ça dépend qui présente le livre. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la ligne de la programmation et de la capacité qu'on a de trouver les personnes qui peuvent venir faire des choses, il y a aussi un axe qui est celui de la culture, je dirais, de la présentation de la culture de l'autre, qui doit toujours être présent. Donc, on ne va pas parler, par exemple, des pommes de terre... en Autriche, quoi. Ça n'a vraiment pas d'intérêt, mais par contre, on peut parler de Vienne et de l'histoire de Vienne, et il peut y avoir une exposition sur l'histoire de Vienne en Autriche.
Et ces choix un peu pas éditoriaux, c'est pas le terme, mais voilà, cette ligne, c'est toi qui la donnes ?
Alors, au départ, oui, puisqu'on a discuté de ça, qu'on a créé une ASBL qui s'appelle Mondo Culture, qui s'occupe aujourd'hui de tous les lieux, c'est-à-dire toute la culture dans les lieux passe par Mondo Culture. C'est Tila Deac, ma collaboratrice directe, qui s'occupe de la programmation et qui s'occupe de gérer l'ASBL. Donc moi, je suis un support encore pour elle, je ne suis pas directement lié à son programme, mais bon, on en parle beaucoup, de la ligne de programmation, de comment on fait les choses, du budget, parce que faut bien se dire que ça coûte de l'argent aussi finalement, donc engager des gens, faire des concerts, des choses comme ça, ça coûte de l'argent. La programmatrice aussi, elle, évidemment, elle gagne un salaire.
Bien sûr.
Donc il faut que ça tienne la route. Alors voilà, on a beaucoup de gens qui disent mais il faut aller se faire subventionner, subsidier, etc. Mais en fait, bon, là on revient au problème de se faire subventionner, oui, mais alors il faut pas qu'on vienne nous, parce que c'est ce qui s'est passé, pardon. On est venu nous dire bah oui, si vous faites ça, bah, il faut parler alors de ça, 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 ça et ça.
Mais oui, mais non, mais il y a tout de suite des contraintes qui
viennent. Oui, voilà. Du coup, on fait ça tout en interne, et l'idée, c'est pas de gagner des mille et des cents, mais c'est de gagner correctement sa vie.
Donc, ton leitmotiv, c'est la liberté n'a pas de prix, quoi. Enfin, c'est l'indépendance avant tout.
Aussi, oui. L'indépendance, certainement. Et puis, si on peut gagner sa vie correctement, oui, pourquoi pas.
Et dernière petite question avant de passer la parole. Donc, la cafétéria de l'IEX, ça, c'est un autre enjeu, parce que pour le coup, c'est lié à des étudiants, c'est encore un autre univers.
Tout à fait. Donc là, il y a eu un appel d'offres. Et puis bon, ben en fait, l'endroit, je le connaissais parce que j'avais été il y a quelques années déjà. Et puis, c'est un endroit qui a un potentiel incroyable. Il y a quand même 2000 étudiants à l'IEX avec des talents. Et donc, quand j'ai compris que l'exploitante, donc la précédente, partait, j'ai dit bon, ben tiens, on peut peut-être voir
nouveau
ce qu'on peut faire. Un nouveau challenge. Et on a fait une proposition d'un café théâtral, etc. Où on pouvait vraiment avoir des représentations scéniques, des performances, des choses comme ça, avec tout l'envergure d'une cafétéria, donc avec des cafés d'été, des plats du jour et des choses comme ça. Donc il fallait de nouveau lier les deux. Et le projet a plu, en fait, au comité de direction et au conseil social. Et puis finalement, je pense qu'on a été choisi sur le projet. Et je crois que ça porte ses fruits parce qu'il y avait aussi besoin, à l'époque, dans cette école, d'un lieu où les étudiants pouvaient se retrouver. Donc on a privilégié un espace avec des fauteuils, des endroits un peu plus cosy, une mezzanine plus fermée, un truc vraiment où on peut se rencontrer pour faire un cours. Parfois, il y a des étudiants qui descendent avec les profs qui font cours là. Donc voilà, ça c'était un projet qui est arrivé un peu comme... on avait oublié qu'on avait remis l'offre, en fait. Et puis il est arrivé juste au moment où on a ouvert le café Béguin. Et c'était, voilà, il fallait le faire tout de suite, évidemment. Donc, voilà. Donc ça, c'était un peu compliqué au niveau timing, mais bon, voilà.
Très bien. Ben, merci en tout cas pour toutes ces informations. Je passe la parole à Tariq qui nous écoute depuis tout à l'heure et qui, je pense, a plein de choses à raconter. Donc voilà, merci.
Bonjour Tariq.
Hey, bonjour, ravi de t'avoir. Hein.
Merci, toi aussi.
Finalement, tes restaurants sont des univers très particuliers et très riches. Oui. Mais ils sont tous dans le centre de Bruxelles. Et donc c'est un peu un univers dans l'univers. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as observé de ce point de vue-là, donc ton point de vue sur la ville?
Alors moi j'ai des établissements, alors soyons clairs, moi j'ai des établissements qui sont plutôt des lieux de destination. Donc je dis ça, c'est-à-dire que ce sont les gens se déplacent pour aller là. Donc au contraire d'autres endroits comme des exquis, d'autres enseignes, où ils vont prendre des gens de passage. Donc ici moi, bien comprendre qu'on est dans d'autres choses. Donc tant mieux, puisque les gens se déplacent, mais on prend aussi une partie évidemment des gens qui passent. Donc si on me demande est-ce que le piétonnement m'a affecté, je dirais oui et non. Je dirais plus non que oui, mais quand même un petit peu. Alors ce qui m'affecte plus, c'est la communication. Ce qui m'a affecté quand il y a eu des problèmes à Paris, et puis bon, ici les attentats malheureusement, ce qui a vraiment été un problème, c'était la manière dont la ville a communiqué ou a mal ou bien, selon les points de vue évidemment, agi sur qu'est-ce qui se passait au centre-ville. Il y a eu un effet de panique qui nous a évidemment énormément affecté, nous tous, hein, nous aussi, parce qu'on avait tous aussi peur que la plupart des gens à Bruxelles. Mais en plus de ça, ben, ça a fait la conséquence, c'est que le centre a été déserté. Donc, il y a eu cette espèce de communication, je dis bien espèce de communication qui n'en était pas une, donc il y avait une mauvaise communication, donc il n'y en a pas eu du tout en fait. Et puis il y a eu derrière ça des travaux et des aménagements qui ont été mal pensés au départ, même si comme tout le monde, on est d'accord que ça vaut la peine de le faire, etc. Mais c'est très très compliqué d'être au centre-ville. Les trois dernières années, c'était très compliqué pour la majorité des gens. Beaucoup de gens ont fait faillite, beaucoup de gens sont partis. La plupart des gens qui venaient et qui avaient une, je pense en tout cas en termes de population, on a un niveau, un pouvoir d'achat qui diminue un petit peu, parce que pour prendre l'exemple du monsieur qui vient faire réparer sa Rolex, il vient avec sa voiture, il garde sa voiture et puis il descend chez son horloger, il fait réparer sa Rolex et il repart. Donc ici, c'est devenu piétonnier, donc il y a une autre population qui arrive progressivement avec un pouvoir d'achat pas forcément inférieur, mais quand même légèrement plus bas. Et d'autres magasins, en fait, qui n'ont plus lieu d'être là. Donc, en fait, cette transition se fait à prix fort pour beaucoup.
Et alors, justement, finalement, c'est vrai pour l'Horeca, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres business.
Bien sûr.
Tu es mis devant un changement extérieur sur lequel tu n'as finalement presque pas de prise. Exactement. Donc, comment on fait, donc, dans ta situation, pour, d'un côté, les attentats, d'un autre côté, le changement urbanistique, pour survivre et tenir bon, comment on fait?
On se remet en question. Donc en fait, nous, quand on a commencé à voir qu'il y avait des soucis comme ça, on a tout de suite développé la partie événementielle. Donc en ce qui me concerne, hein, donc on a tout de suite dit, on a des gens qui veulent faire des événements pour 20, 30, 40, 100 personnes. Ben, on va développer une logique de réponse et avec des formules attractives pour que les boîtes qui veulent faire leurs petits événements viennent chez nous. Donc on a tenu pendant tout un temps avec les événements. Donc on avait jusqu'à 9 à 10 événements par semaine. Donc ça, c'était un rebondissement. Heureusement qu'on avait ça d'ailleurs, parce que c'était vraiment ce qui a pu tenir. Et puis il y a eu aussi la participation de l'équipe, parce qu'on a expliqué à un moment donné, moi j'ai expliqué aux gens et à mon équipe, je leur ai dit, on doit fonctionner ensemble. Vous avez vu la problématique qu'on a, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde doit diminuer un petit peu en termes des heures, pour que tout le monde puisse garder son boulot. Moi je ne veux remplacer ni virer personne. Et puis finalement, toute l'équipe a répondu. Je crois que c'était très important d'être dans une collaboration avec tout le monde. Ça, c'était un moment d'ailleurs très émouvant. Quand j'ai expliqué à tout le monde ce qui se passait, tout le monde a compris, tout le monde a dit on est d'accord, on fait les choses comme on peut, le temps de... Donc on s'est vraiment senti en équipe, en fait. Voilà comment j'ai tenu, plus ou moins.
Donc c'est maintenir la communication et la confiance.
Parce qu'on a 100%.
On a un peu cette idée... Que parfois dans les restaurants, il y a de l'argent qui circule, que c'est difficile d'avoir confiance. Mais finalement.
Je pense pas. Je pense que tout dépend de avec qui on est, qui on engage et l'honnêteté avec laquelle on travaille. j'ai vraiment très peu de personnes avec qui je me sens pas en confiance qui travaillent. J'en ai pas du tout. Tous les gens qui travaillent avec nous, dans notre, on se fait tous confiance, on se voit tous entre nous. Je veux dire, même les restaurants entre eux, il y a il y a deux équipes de foot qui jouent tous les lundis au mini-foot. Enfin, il y a vraiment une collaboration. Et les gens se sentent plus en famille, finalement, que d'être dans une entreprise lambda. Donc, ils se sentent chez eux, en fait. Donc, la communication est très importante. Et le faire confiance, ça, c'est très important de faire confiance.
Alors, les restaurants changent beaucoup, enfin, en tout cas, l'industrie.
Oui.
Et donc, je crois qu'il y a quand même deux changements. D'un côté, c'est les coursiers, les Deliveroo, les Uber, les ceci et cela.
Tout à fait, oui.
Et de l'autre côté, cette fameuse boîte noire. Alors, comment tu te positionnes aujourd'hui par rapport à ça ?
Alors, très bien. Moi, je crois que c'est très intéressant de voir la boîte noire. Moi, de toute façon, je n'avais pas vraiment d'autre solution à proposer qu'à part mettre une boîte noire, puisque apparemment, c'est un secteur dans lequel on fait énormément d'argent non déclaré, tout ça. Et puis, on ne s'est pas vraiment posé la question sur la nécessité ou pas de ce volet-là. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que, en définitive, je ne pense pas qu'on n'a pas le pouvoir d'achat des pays nordiques qui appliquent ce système-là. On n'a pas une fiscalité basse comme en France ou ailleurs qui sont sectorielles. Ici, tout le monde est... évidemment, le travail est très, très taxé et ça devient vraiment un problème, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. On se rend bien compte, vous êtes, si en tout cas au Bessie, vous devez bien savoir ce qui se passe. La plupart des gens se disent, mais comment je vais faire pour payer mes employés ? Parce qu'il y a une équation qui n'est pas bonne, c'est l'équation de on ne peut pas demander un plat de payer en Belgique, en tout cas à Bruxelles, un burger au-dessus de 12 euros ou 15 euros maximum, mais par contre, on paye de l'heure une personne entre 25 et 30 euros. C'est le coût. Alors, il y a des équations qui fonctionnent dans les pays du Nord, en Belgique, elles ne fonctionnent pas. Parce que, tout simplement, j'ai encore pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'ai fait une petite consultance pour un nouveau projet qui s'installe, des Français qui s'installent au centre-ville, justement. Grosse enseigne qui arrive. Et ils m'ont demandé d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils avaient 250 000 euros de différence entre des salaires en France pour le même chiffre d'affaires, toutes choses gardées. Hein. Même chiffre d'affaires, même nombre de personnes et tout. Ils avaient 250 000 euros de différence de coût salarial. Et je lui ai dit, bienvenue en Belgique, parce que c'est comme ça. Et comment vous faites pour vous en sortir ? J'ai dit, il faut trouver la manière de s'en sortir. Et je lui ai expliqué qu'il y avait effectivement toujours le moyen d'aller discuter, d'aller trouver des gens qui sont Activa, FlexiJob, etc. Alors que tout le monde est bien d'accord que si on réduisait drastiquement les impositions sur le travail, je pense sincèrement que ça relancerait sincèrement. Il y a eu plein d'études qui l'ont démontré, ça relancerait énormément l'économie, ça diminuerait vachement les gens le chômage. Et je ne comprends pas comment et pourquoi on ne le fait pas encore. Voilà. Alors, ou bien c'est parce que la fiscalité est une thématique électorale et qu'on l'utilise de manière intempestive pour dire, moi, je vais vous faire ça, moi, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Et donc, on dit, finalement, on va choisir lui parce que lui, grâce à lui, on va gagner 100 balles de plus par mois. Merci beaucoup, ça va nous changer notre vie. Mais non, en fait, il faut faire des choses concrètes. Je crois qu'il faut faire un grand coup maintenant, parce que sinon ça ne va pas aller. Pour beaucoup. Hein.
L'appel est lancé.
Voilà. Alors, écoutez-moi.
pour conclure, je veux dire, sur une autre touche personnelle, le rapport des gens à la nourriture change quand même beaucoup pour le moment, on dirait, non ? C'est un bouleversement complet.
C'est-à-dire qu'il y a... Alors, on vit un moment quand même très compliqué. Enfin, surtout nous, au centre-ville, il y a le piétonnier, il y a ceci, il y a celle-là, il y a le problème de fiscalité, la boîte noire. Et puis alors maintenant, il y a les gens qui ne veulent plus manger de viande, ils veulent manger plus sain, ils veulent regarder ce qu'ils ont dans leur assiette, etc. Mais tout ça, c'est une bonne chose. Mais je crois que... J'entendais il n'y a pas longtemps qu'il y avait un problème. On ne touche pas à la voiture salaire en Belgique. Même les écolos n'y sont pas arrivés, etc. Enfin, donc... Il faut qu'on change quelque chose dans notre fonctionnement, parce que si on veut aller vers ça, pas de souci. Mais quand vous allez acheter des produits qui sont bio et pour faire finalement de la nourriture à bas prix, puisque c'est mon secteur, vous ne pouvez pas, parce que c'est beaucoup plus cher. C'est pas possible d'acheter 50% même dépenser 50% en valeur en euros, si vous voulez, en plus sur votre montant global d'achat. Ça n'est pas possible pour avoir de la bonne bouffe, parce que vous pouvez pas monter les prix par contre en conséquence. Donc, on est bloqué. Et puis, il n'y a rien à faire. Moi, je pense aussi que tout ce qui est bio, etc., etc., ça reste quelque chose qui est pour une tranche de la population, pas pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à un moment donné, on va se retrouver avec des gens qui vont pouvoir manger des choses très saines, vivre très longtemps parce qu'ils seront très bien, et puis d'autres assistés qui n'ont pas de salaire et qui mangent mal. Donc, il y a ce décalage qu'il faut absolument...
Qu'il faut anticiper.
Il faut anticiper, oui, tout à fait. Donc, voilà.
Et l'agronome en toi aussi t'inquiète.
Ouais, moi, je suis très inquiet, oui, sincèrement. Ouais, on a déjà discuté, mais effectivement, ouais, y a vraiment un souci en Belgique. Enfin, j'adore Bruxelles, j'adore la Belgique, il faut bien dire ce qu'on dit. Je pense qu'on est un pays qui peut y arriver, mais il faut qu'on se donne un bon coup de pied pour y aller, quoi. Il ne faut pas avoir peur, en fait.
Eh ben.
Et il n'y a pas que la Belgique, d'ailleurs.
Et il n'y a certainement pas que la Belgique.
Je crois qu'on peut étendre la réflexion.
Ah, dans le monde entier, oui.
Voilà.
Je ne pensais pas aux États-Unis. Hein, donc, mais...
donc bah, très bien, on va devoir conclure. Et pour cela, on a décidé de te poser quelques questions courtes. Alors, tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible.
Aïe.
Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne?
Ne perds pas le Nord.
Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs.
Tu peux dormir et travailler et réussir.
Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser?
Pas dormir.
Une citation que tu aurais rêvé de dire?
L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs.
Très bien, c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci Ailé et merci Tariq.
Merci.
N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.
Merci Ailé, merci Lisa.
Merci
à tous.